bonjour à tous. J'avais à cœur ce matin qu'on puisse prendre vraiment le temps de s'exprimer après. Ce message appelle probablement à quelques-uns d'entre nous de réfléchir et voire à s'engager. Et on va lire un premier texte, un simple verset qui se trouve dans le livre des Proverbes. Et c'est d'ailleurs le titre de ce message. C'est un proverbe qui est simple, mais en même temps, on peut avoir du mal à en saisir toute la profondeur. Proverbes, chapitre 23, verset 26. Mon fils, déjà rien que là, on cadre. À qui s'adresse ce verset ? Mon fils. Il s'adresse à quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu. Quelqu'un qui a compris le sens de la croix. Quelqu'un qui a Dieu pour père. Et normalement, ce qu'on va lire aurait déjà dû être fait. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Selon ce verset, on voit que quand un cœur n'est pas entièrement donné à Dieu, il est difficile de trouver un quelconque plaisir dans les voies de Dieu. On voit comme une conséquence le fait de trouver du plaisir dans les voies de Dieu quand le cœur est entièrement donné. Il y a quelque chose qui se passe. Le « et » ici, c'est un « et » de conséquence. Qui a vraiment donné son cœur à Dieu ce matin ? À qui est concerné par le fait d'avoir donné son cœur tout entier à Dieu ? Peut-être on peut se poser la question autrement, est-ce que quand tu penses aux voies de Dieu, tu y trouves de plaisir ou tu y trouves de la contrainte ? Quel est ton ressentiment intérieur quand tu considères les voies de Dieu ? Quand tu considères ce qui est agréable à Dieu, est-ce que toi ça t'est agréable ou pas ? Ce premier texte est un texte des premiers. On va faire un tabouret à trois pieds ce matin, trois fondements, et on va partir là-dessus. On va bâtir là-dessus. Le deuxième fondement, c'est la suite logique quelque part de ce verset. Et là, je vous amène dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Je vais vous le lire dans la version Parole vivante. Et je vous demanderai, parce que c'est beaucoup plus long que dans vos Bibles probablement, écoutez bien cette version, écoutez bien ce que je vais dire. Prêtez attention à ces paroles, vraiment. Soyons concentrés, je vais essayer de lire pas trop vite. Donc je cite Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là un culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Et quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas simplement du culte du dimanche matin. Le vrai culte que je rends à Dieu, c'est ma vie de tous les jours. C'est ma vie de tous les jours. Est-ce que mon cœur se plaît dans les voies de Dieu? Et on voit ici qu'il y a une condition pour discerner les voies de Dieu. La condition préalable, c'est de se donner tout entier à lui. C'est la condition qui permet de bien voir clair dans ce que Dieu veut. Parfois, beaucoup se demandent, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Etc. On se retrouve souvent dans ce genre de circonstances, dans ce genre de situation. Et malheureusement, on a un cœur partagé qui fait que c'est encore plus dur de savoir. Un cœur partagé qui amène souvent cette question, mais au fait, est-ce que Dieu a réellement dit? Qui a posé cette question? Vous savez? C'est la toute première question qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et qui la pose? C'est le diable. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu nous encourage à ce que on puisse se donner tout entier à lui et à ne pas nous conformer. On voit ici que se donner tout entier, c'est aussi ne pas se conformer au siècle présent, à ce monde. Et celui qui ne se conforme pas, comme Jésus l'a dit, Dieu ne nous a pas appelés à sortir du monde, à ne plus avoir de relation avec les gens du dehors, mais à ne pas nous conformer, à conserver notre identité, à ne pas agir comme eux, à ne pas penser comme eux, à ne pas parler, faire, à ne pas être comme eux. Et quand on agit ainsi, on se dirige forcément vers certaines voies, et c'est le Seigneur qui nous conduit, et on y voit clair aussi. En fait, quand Dieu nous demande de lui donner notre cœur, c'est pas par égoïsme divin, on va dire. C'est parce que Dieu, il sait que celui qui se livre à lui, il se livre entre de bonnes mains. Et on y trouve un épanouissement personnel, on y trouve l'épanouissement du Seigneur, parce que ça plaît au Seigneur de savoir qu'il peut nous gérer, qu'on sera docile entre ses mains, parce qu'il pourra faire de nous le plus beau vase. Et même pour les autres, ceux qui sont autour de nous, c'est pareil. Il y a tout à gagner à se donner entièrement à Dieu. Celui qui ne le fait pas, qui a le cœur partagé, il vivra toujours dans une sorte de brouillard. Toujours. Il ne saura jamais comment faire, comment penser, etc. Parce qu'il laisse toujours une part à autre chose que ce que Dieu dit, à autre chose que ce que Dieu pense. Du coup, il y a des avis à mesurer. Il faut choisir, sans cesse, il faut choisir. Et là, le brouillard. Le troisième principe, on le trouve dans la bouche de Jésus, Jean chapitre 12, verset 24. Et là encore, ça ne fait qu'aller plus loin, ça va crescendo. Jean chapitre 12, verset 24. C'est une loi de la nature, mais c'est aussi une loi spirituelle. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est une réalité qui est très dure à expérimenter parce que nous, êtres humains, eh bien effectivement, ce qu'on voit d'abord, c'est le côté face. Et c'est dur. Parce que quand Dieu te dit « Donne-moi ton cœur », quand Dieu te dit « Engage-toi, livre-toi tout entier comme un sacrifice vivant », nous, ce qu'on voit, c'est le côté du sacrifice. Nous, ce qu'on voit, c'est la mort. Et ce que Dieu aimerait qu'on puisse comprendre, saisir ce matin, c'est quand on livre à la mort ce qui n'appartient pas à Dieu, de manière à ce que notre cœur soit tout entier à lui, alors il y a un principe de résurrection qui est là. Alors que le grain de blé qui est tombé en terre va mourir, sa fierté va mourir. Il était beau sur les pays. Hein, ah, comment je suis beau, bien, bien, avec la lumière du soleil couchant sur les îles. Vous avez déjà vu ce genre de photos sur les champs de blé, là? Le soleil rasant sur les champs de blé, c'est beau ces photos, j'aime beaucoup. Et ça reflète sur les épis, tout ça. Ça peut être toute la fierté de ces épis. Et des fois, on se voit comme ça. Mais bon, bonhomme, la volonté de Dieu, c'est pas de rester sur l'épi, c'est d'aller dans la terre. C'est d'aller dans les ténèbres, dans la solitude, où ta coquille va se ramollir à cause de l'eau. Et c'est là que ta coquille étant morte, il y a une explosion de vie. Le germe ressort et ça pousse et ça produit un épi qui en produit 10, 20, 30, 100, etc. Et il y a ce vrai principe. Dieu veut qu'on puisse s'épanouir. Il veut qu'on puisse être pleinement vivant. Mais pour ça, il y a une étape avant qui nous amène à amener à la mort ce qui me retient d'être tout entier à Dieu. Sur ces chaque principe qu'on vient de voir, on va regarder des exemples. Et j'ai eu l'idée de comparer deux hommes qui étaient proches. C'est Lot et Abraham. Alors, Lot, ça veut dire voile, couverture. C'est l'image de ceux qui sont aveuglés, comme les Juifs aujourd'hui. Abraham, c'est le père des croyants. C'est celui qui a accepté de regarder ce côté face-là et d'aller au-delà. Et aujourd'hui, il est le père de tous les croyants. Sa descendance est innombrable. Deux destins bien différents. Lot, il est l'image du juste. Tout à l'heure, j'ai bien précisé, le verset, c'est « mon fils ». Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Ça veut dire qu'il est quand même juste, mais un cœur partagé. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas épanouie. Et elle cloche des deux pieds. Elle n'est pas bien. Elle est tourmentée. Parce qu'elle laisse un combat se faire. Les deux ont démarré ensemble. Et ils étaient appelés quelque part à une même vocation. Et leurs chemins vont se séparer. Le premier principe, c'est un cœur qui est donné. Un cœur qui est donné. Mon fils, donne-moi ton cœur. On pourrait regarder ce que l'auteur aux Hébreux écrit. Je vous donne la référence pour ceux qui prennent des notes. Hébreux 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ici, on a quelqu'un qui va faire un choix complètement fou. Parce que, sur une révélation divine, et on peut imaginer tous ceux et celles qui ont pu lui dire, mais mon pauvre Abraham, tu délires. Tu pars sans savoir où tu vas. Ben oui. Quel programme. Dieu lui a juste donné une direction. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous regarderez une histoire qui est très révélatrice de comment Dieu procède avec nous. J'aime beaucoup, c'est dans Acte 8 à la fin, où vous voyez Philippe qui est orienté par Dieu, mais pas après pas. Dieu lui donne pas dès le départ, ben voilà, je vais t'envoyer dans le désert, et tu vas aller dans telle direction, et ensuite tu vas voir quelqu'un sur un char, et tu iras lui parler. Et Dieu fait pas comme ça. Dieu l'amène, paf, et dit, va par là. Et quand le moment est venu, il donne les indications nécessaires pour aller plus loin. Le problème, c'est que quand Dieu nous révèle tout, on est assez tordu pour pas suivre ce qu'il va nous dire. Alors ça sert à rien, autant qu'il nous conduise pas après pas. Abraham a compris ça. Et alors qu'il ne sait pas où il doit aller, il va suivre l'ordre que Dieu lui donne. Il va compter sur la parole de Dieu. Et toute sa vie, Abraham va vivre comme un voyageur, dans des tentes. Comme quelqu'un qui n'est pas attaché au bien de ce monde. Lot, en revanche, vous encourage à regarder le chapitre 13, et on va lire les versets 10 à 13. Là, on est sur un passage où le cœur de Lot se révèle à nos yeux. Et il y a eu un passage difficile où Abraham s'est trompé. Il est descendu en Égypte et on voit que ça laisse des traces. L'Égypte, dans l'Ancien Testament, c'est le symbolisme du matérialisme. C'est le symbolisme aussi de l'occultisme, de toutes ces choses, l'idolâtrie. Et je crois que le monde occidental, on pourrait l'appeler l'Égypte, sans problème. Genèse 13, versets 10 à 13, alors qu'il y a une querelle entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, Abraham, qui veut la paix, propose cette séparation, une séparation dans la paix. Et alors qu'Abraham lui dit, écoute, tu vas où tu veux, moi j'irai de l'autre côté. Il laisse le choix à Lot. Et au verset 10, on voit comment Lot regarde. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La précision qui en dit long. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un et l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Les tentes en direction de Sodome. Il dresse ses tentes. Au départ, il ne fait que dresser ses tentes en direction de Sodome. Et cette indication au verset 13 qui nous dit « Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. » Lot comparait Abraham. Il fait un choix raisonnable. Il fait un choix logique. Parce qu'il est berger, il a un grand troupeau de brebis et il voit une plaine comme un jardin. Pour les brebis, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est le choix le plus logique, sensé d'un point de vue humain. Et on voit quand même que Lot, il pensait encore à son cheptel dans son choix, parce que c'est le jardin qui l'attire. Mais c'est pas sans oublier aussi cet aspect nostalgique où il a pu connaître certaines choses en Égypte. Cette facilité qu'apporte peut-être le matérialisme, etc. Dieu n'est pas contre d'avoir des biens et des richesses, hein. C'est pas ce que je dis. Mais quand ça commence à prendre la plus haute importance, là nous sommes amenés peut-être à réfléchir. Et on voit qu'il y a une subtilité dans le choix de Lot, parce que Lot, ce qu'il voulait, c'est continuer son activité. Mais bon, il est quand même attiré par ce coin. Alors il s'approche et il met ses tentes en direction de Sodome. Ici, on voit vraiment le cœur de Lot qui n'est pas entier à Dieu. Parce que moi, quand je pense à ce choix auquel il a été confronté, souvent on pense que bon, il n'y avait pas d'autre solution. Des fois, ça me fait penser à ce passage où Élie dit à Élisée, écoute, reste là, parce que moi, il faut que j'aille là-bas. Et Élisée, vous savez ce qu'il dit? Non, je reste avec toi. Et encore un peu plus loin, Élie dit, reste là, parce qu'il faut que j'aille plus loin. C'est un ordre. Hein. Et il disait, non, je reste avec toi. Et c'est une question que je me pose souvent. Est-ce que Lot n'aurait pas mieux fait de... Est-ce que ce n'était pas le test de Dieu, ce test, cette séparation? Est-ce que c'était bien qu'il se sépare d'Abraham? C'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour Lot de réfléchir et de dire, non, j'ai besoin d'être auprès de toi, de rester à tes côtés. On va s'arranger pour ces problèmes. Pardonne-moi, pardonne mes bergers s'ils t'ont offensé les tiens, mais il faut qu'on règle le problème. Mais je reste avec toi. Ici, Abraham, c'est le patriarche, c'est celui qui, ici, est revenu peut-être d'un mauvais pas, mais il est tout entier à Dieu. Et Lot, peut-être, avait tout intérêt. On voit ici que quand il était avec Abraham, il le suivait, pas de problème. Il était dans ce qu'il devait être. Mais dès qu'il s'est séparé, son cœur partagé a éclaté au grand jour. Le deuxième point, c'est le vrai culte qu'on a vu dans Romains 12. Alors, quand on regarde Abraham, eh bien, on voit déjà d'abord au verset 9, justement, de ce chapitre 13, la volonté d'Abraham de ne pas gérer. Il remet sa cause à Dieu, en fait. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est quelqu'un qui est ouvert à la discussion. C'est quelqu'un qui est ouvert au choix de l'autre. Et finalement, il est surtout ouvert vis-à-vis de Dieu parce qu'il a en tête que Dieu conduit ses pas. Et quelque part, dans son quotidien, on voit que Abraham, il fait le choix de la confiance en Dieu. Il s'en remet complètement à lui. Alors qu'en tant qu'aîné, étant donné certainement des richesses bien plus grandes que celles de Lot, il aurait dû choisir. Il aurait dû prendre sa part. Il aurait dû faire son choix et laisser l'autre à Lot. Mais non, ce n'est pas ce qu'il fait. Il a conscience de l'autre et il veut prendre en compte le bonheur et l'épanouissement de l'autre. Dans Hébreux chapitre 7, versets 1 et 2, je cite, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. » Ce verset, je le cite pourquoi? Parce qu'il fait suite à un moment donné où Dieu a essayé d'avertir Lot de sa mauvaise direction et a permis qu'il y ait une guerre, et qu'il se fasse enlever. Heureusement, tonton Abraham était là, et il est parti avec son armée aller le chercher. Il a vaincu par l'aide du Seigneur. Et voilà que les rois du coin voudraient, entre guillemets, remercier Abraham. Et il y a deux situations. On voit qu'Abraham, de tout le butin qu'il va remporter, il va tout donner à Melchisédek, un inconnu. Mais de par son nom, son statut était roi de paix. Et l'auteur aux Hébreux nous explique que finalement, il était une image du Christ. Il donne tout à Dieu. Il n'a rien gardé pour lui. Et même de dire, alors que les autres le soudoient quelque part, je cite Genèse 14, versets 21 et 22, « Le roi de Sodome dit alors à Abraham, rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Écoute Abraham, ce que j'ai gagné, vu ce que tu nous as fait, tu peux garder nos biens, tu peux garder notre part de butin. » Et Abraham a le discernement. Il sait que certainement en acceptant ça, il se retrouve lié à ces gens. Et Abraham, toujours dans ce désir de ne pas se conformer à ce monde présent, il va rester, comme on dit, droit dans ses bottes. Et il va dire, écoute, tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Donc je n'ai pas besoin de ce que tu me donnes. Parce que si j'ai besoin, il y en a un qui va me donner là-haut. Et ici, j'aime quand Abraham il dit, je jure à main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel, la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Et en plus, il explique pourquoi il agit comme ça. On a envie de dire la classe. Abraham ne se conforme pas aux coutumes de guerre. Il refuse d'avoir un lien avec qui que ce soit dans cette région. Parce qu'il est dans cette région, certes, mais il n'est pas conforme à ces gens. Il agit autrement. Il y a quelqu'un d'autre qui dirige sa vie, ses décisions, parce que son cœur a été donné tout entier au Très-Haut. Et on voit qu'il a du discernement quand il traverse des situations. Lot, c'est pas pareil. Si vous venez avec moi dans le chapitre 19 de la Genèse, les deux premiers versets, c'est le moment où le jugement tombe sur Lot, sur Sodome et Gomorre, et Dieu intervient, parce que dans cette ville, il y a quand même injuste. C'est pour ça que je ne veux pas trop accabler Lot, mais parce qu'aux yeux de Dieu, il est juste quand même, sinon il n'aurait pas été sauvé. Il n'aurait pas été sauvé, mais un cœur partagé, un cœur tourmenté. Au verset 1, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Donc il a reconnu les anges. Puis il dit, parce que les autres n'ont pas reconnu, ça veut dire qu'ils avaient pris une forme humaine quand même. Il avait eu ce discernement de reconnaître les anges. Puis il dit, « Mes seigneurs, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. » Voilà que Lot a troqué les tentes pour une maison. Il a troqué le troupeau pour la place de la bourse ou du marché. Il se retrouve aux portes de la ville. Il se retrouve aux portes. Et à la porte de la ville, ceux qui siègent à la porte de la ville, ce sont les anciens, ce sont les responsables. Lot n'est pas seulement un simple citoyen lambda dans la ville, mais le voilà notable de cette ville. Quel sacrifice Lot a-t-il fait ? Quel sacrifice a-t-il fait ? Comment il a fait pour être notable à Sodome ? Est-ce que suite à la guerre, il a fait comme Géasi avec Naaman, ce que Élisée t'a dit, il s'est trompé en fait. Au contraire, il voudrait des robes en plus, il voudrait tout ça. Est-ce que Lot a essayé à ce moment-là de la bataille de dire, écoute, c'est quand même mon tonton qui t'a sauvé. Je sais pas, j'interprète, j'imagine. J'essaye de voir, peut-être c'est pas ça. Hein. Parce que Lot, rappelez-vous, faut pas oublier qu'il était juste aux yeux de Dieu. Mais quand même. Quand même. Alors, est-ce que c'est là qu'il a pu grimper dans l'échelle sociale de la ville ? Souvent, on dit que Lot, il avait deux filles, mais il en avait au moins quatre. Parce qu'il y en avait deux qui étaient mariées. Parce qu'il avait des gendres. On les oublie souvent. Est-ce que, comme les rois à l'époque, il a donné sa fille en mariage pour obtenir un deal pour... C'était comme ça que ça se traitait à l'époque, hein ? Salomon, il s'est allié par mariage avec Pharaon en prenant pour femme sa fille. Est-ce que Lot a donné ses deux filles ? Parce qu'il y en a au moins deux. On ne sait pas combien, mais il y en a au moins deux. Parce qu'il avait des gendres. Il a donné au moins deux de ses filles aux gens de cette ville pour grimper socialement. Quel sacrifice a-t-il fait ? Je me pose la question. Et on se pose la question parce que quelque part, quel but il cherchait en fait ? Quel but il cherchait ? Il avait un troupeau, il avait des bergers, il avait tout ce qu'il fallait. Le voilà notable de la ville de Sodome, comme s'il cherchait une position, une reconnaissance de l'autre, des hommes. Et il cherchait la reconnaissance des hommes plutôt que celle de Dieu peut-être. Il s'égarait l'autre. Il s'égarait. Il pensait peut-être qu'il servirait Dieu en passant par... Peut-être qu'il s'est dit, mais dans cette ville de Sodome, ils sont tous mauvais. Moi, vous savez le syndrome du sauveur ? Vous connaissez ça ? Peut-être que Lot, il s'est dit, mais moi, je vais venir et puis je vais leur instruire, je vais tout faire pour gagner une position dans la ville et là, j'aurai de quoi les influencer. Des fois, c'est un peu notre problème au niveau pastoral. Parce qu'on voudrait influencer les strates de l'État. d'une manière ou d'une autre. On croit que c'est possible. Je ne sais pas si c'est notre rôle. Bon, je ferme la parenthèse. Lot, on ne sait pas ce qui a motivé ses choix et ses mauvais choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait un cœur qui était partagé. Et ce cœur partagé l'a amené à faire, malheureusement, beaucoup de mauvaises décisions. Le dernier point, c'est ce principe de résurrection. Si tu vas complètement à la mort, alors de cette mort va ressortir la vie. Pour Abraham, je pense que vous savez ce dont je vais parler. Et c'est résumé dans le 11e chapitre d'Hébreux, que je vous cite, Hébreux 11, versets 17 à 19. Abraham, il ne va pas refuser d'offrir à Dieu ce qu'il avait de plus cher, le fils de la promesse même de Dieu. Le fils de la promesse même de Dieu. Je sais qu'à un moment donné, je ne veux pas juste me... Je le dis parce que ça correspond en fait à ce que je veux dire. Excusez-moi. Mais à un moment donné, dans le cadre de mon ministère, de ma formation, il a fallu que je mette ma formation entre parenthèses. Et pourtant, j'avais eu une direction de Dieu. J'étais sûr de ce que Dieu voulait. Mais à un moment donné, alors que aucun reproche à mes yeux pouvait être fait, on me dit, écoute, Jonathan, il faut que tu t'arrêtes. Et il a fallu que je réfléchisse, je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends du travail? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'est venue cette affaire-là, où j'ai lu dans ce texte que Abraham, il a sacrifié même ce que Dieu lui avait donné. Il était prêt à le redonner à Dieu. Et à un moment donné, c'est l'expérience que j'ai dû faire. Seigneur, écoute, moi, je croyais qu'il fallait que j'aille par là, mais si ce n'est pas ta volonté, ok. Et le Seigneur a permis que ça aille plus loin, sinon je ne serais pas là. Mais c'est pour vous expliquer que même des fois, Dieu nous donne des choses précieuses. Abraham, ce qu'il avait, c'était le fruit de la promesse de Dieu. Alors qu'il ne pouvait pas enfanter ni lui ni elle, voilà qu'il a un fils, conformément à la promesse de Dieu. Et Dieu lui dit, écoute, maintenant tu vas me le donner. Et là, Abraham, alors la Bible ne dit pas qu'il n'a pas eu de lutte intérieure, tout ça. Probablement ça a été le cas quand même. Mais il obéit. Et on lit dans Hébreux 11, chapitre, versets 17 à 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Et c'est ainsi qu'Abraham est nommé comme étant, c'est Dieu qui le nomme ainsi, c'est mon ami. Moi, j'aimerais, je ne me dirais pas moi-même, je suis ami de Dieu, mais si Dieu dit de moi que je suis son ami, ça me va. Abraham était l'ami de Dieu. Et la confiance en Dieu a été jusqu'au bout. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a obéi dans les moindres détails, même à tous les ordres quelque part qui pouvaient lui paraître complètement fous. Il n'avait, de par ses yeux, que le côté face à chaque fois. Il voyait toujours ce qu'il allait perdre. Et par son obéissance, il a beaucoup gagné. Aujourd'hui, il est devenu le père des croyants. Sa postérité, par la foi, elle est sans nombre. On regarde Lot. Je vous cite la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 7 à 9. Et s'il a délivré le juste Lot, alors il y en a qui disent, ouais, Pierre, il dit qu'il était juste, bon. Oui, il était juste, parce que sinon Dieu ne l'aurait pas épargné. Point. Et c'est conforme à l'intercession d'Abraham, Genèse 18. Lot était juste. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Lot était juste aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait certainement une attitude. L'apôtre Paul, il écrit aux Romains que le juste vivra par la foi, en citant l'ancienne alliance. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Lot, il a une attitude de foi, c'est obligé. Sinon, il ne serait pas appelé le juste. Alors, je continue la lecture. « S'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Il a été sauvé, épargné par Dieu, donc il était juste. » Ça, c'est sûr. Mais il avait ce cœur partagé. Quand est-ce que Lot s'est à un moment donné repenti? On n'en sait rien, la Bible ne le dit pas. Est-ce que Lot a prié pour la situation de cette ville et peut-être qu'à un moment donné, il a réalisé dans quel embarras il était. Et peut-être qu'à un moment donné, il dit « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Viens à mon secours. » Et ça se trouve, le jugement de Dieu a été son exaucement. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, le cœur partagé de Lot nous amène à plusieurs choses. Il a perdu beaucoup. Il a perdu beaucoup. Alors qu'il voulait garder, il a perdu. Abraham, il était prêt à perdre et il a obtenu. Lot, il a perdu deux filles mariées, mortes dans le jugement, au moins deux. Les deux qui lui restaient, quand on regarde ce qu'il en est dit, c'est pas glorieux malheureusement. Pendant le sauvetage, il a perdu sa femme. On peut dire qu'il a perdu sa famille. Il a sacrifié sa famille. Il a perdu ses collaborateurs aussi. Ses amis peut-être. N'oubliez pas qu'il était berger. Et il y avait une querelle de berger, ça veut dire qu'il en était le chef. Donc il avait des collaborateurs autour de lui. Que sont-ils devenus? Se sont-ils conformés aussi à la vie de Sodome? On ne sait pas. Mais en tous les cas, on retrouve Lot absolument seul. Lot a perdu son appel. Il était appelé à être berger. Il n'était pas appelé à faire du business à l'entrée de Sodome. Et il s'est trompé. Peut-être que dans l'appel qu'il avait reçu, il a mal compris certaines choses, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il a perdu son appel. Il se retrouve à la fin sans rien. Est-ce qu'il faut évoquer le fait que sa maison, il l'a perdue? Et tous ses biens, il les a aussi perdus. Il se retrouve dans une caverne. C'est triste quand on regarde sa fin. Il est épargné, mais il a tout perdu. Ça me fait penser, même quand il cherchait à convaincre ses gendres que le jugement allait venir, il paraissait plaisanter. Il était même plus crédible. Son témoignage ne valait rien. Et je me pose la question parmi nous, peut-être que des fois quand on dit certaines choses et que les gens ils pensent qu'on plaisante, réfléchissons. Parce que c'est pas normal. Si quand on parle du Seigneur, si quand on dit certaines choses, les gens ils pensent qu'on plaisante, alors il peut y avoir cette incrédulité. Et c'est peut-être aussi quelque part notre posture. On est un peu comme Lot ici. Je cite avant de conclure ce texte de Jésus qui dit « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra pour ma cause la retrouvera. » C'est exactement ça. Et ici, on voit qu'en ce qui concerne Lot, eh bien, il a été partagé. Et alors que le jugement tombe, moi j'aime beaucoup ce moment où finalement on voit, regardez, on va aller vite fait dans Genèse 19, c'est là où on voit la grâce de Dieu quand même. Au verset 16. Mais il s'attardait, vous voyez que les anges, ils le pressaient. Allez, il faut y aller. Le jugement va arriver, il faut y aller. C'est par toi, c'est le moment. Et l'autre, et... vous savez, le brouillard est toujours là. Et il est encore en train de se dire, mais est-ce que c'est des anges qui m'ont parlé? Est-ce qu'il va y avoir le jugement qui va venir? Est-ce que le Seigneur Jésus va vraiment revenir? Est-ce que c'est vrai, en fait? Il est encore là, l'autre. Et du coup, ben, il avance pas très vite. Il s'attarde, parce que il est toujours dans son brouillard. Son cœur est toujours partagé, bien qu'il ait vu des anges. Et les anges, on voit qu'il dit, mais allez, allez, dépêche-toi. Et verset 16, il s'attardait. Alors les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme. Il y avait lui, sa femme et ses deux filles, ils étaient deux anges. Les quatre mains des anges étaient prises. J'imagine. Les quatre mains des anges étaient prises, une main par personne. Et ici, on voit quoi? Que Dieu voulait sauver sa famille, parce qu'il leur avait dit, tes gendres, va leur dire. Il voulait sauver la famille, mais l'incrédulité de sa propre famille n'a pas permis que toute la famille soit sauvée. C'est triste. Et on voit que l'Éternel, c'est ça qui est beau, l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le laissèrent en dehors de la ville. Dieu ne pouvait pas faire tomber le jugement sur Sodome tant que Lot n'était pas sorti, tant que Lot n'était pas en sécurité. Et frères et sœurs, un jugement vient sur cette terre. Il ne pourra pas venir tant qu'on n'est pas sorti. Il ne pourra pas venir tant qu'on n'est pas sorti. On est dans la même situation. Mais le Seigneur nous appelle ce matin. Il nous appelle. Arrête avec ton cœur partagé. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et on est tous dans la même situation. On a tous des choses qui prennent peut-être la place de Dieu dans nos vies. Est-ce que je lui appartiens en entier? On se plaint de ne pas savoir où il faut aller. On se plaint de ne pas savoir quoi faire. Mais est-ce qu'on n'est pas comme Lot? À force d'aller à gauche et à droite, de clocher des deux pieds, on n'y voit plus rien. On met tout en doute. Le Seigneur te dit ce matin, donne-moi ton cœur en entier. J'aimerais qu'on puisse prendre quelques chants. Parce que je voulais vraiment, pendant ces chants, qu'on puisse réfléchir. Vous savez, les chants, on ne s'est pas concerté. Hein. Et quand j'ai vu la teneur de certaines paroles, je me suis dit, vaut mieux les chanter après la prédication. Peut-être que certains au milieu de nous se retrouvent travaillés et se disent, bah, c'est dur. Et vous regardez encore le côté face des choses. Oui, mais si je me donne à Dieu, je vais perdre ça, je vais perdre ça, je vais plus faire ça. Oui, c'est ce que vous faites, mais c'est ce que vous pensez. Mais Dieu, il désire vous transformer de l'intérieur. Il désire vous renouveler. Il désire faire de vous quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera épanoui dans sa vie. Peut-être qu'à ce jour, tu vois tout ce que tu n'auras plus et tu ne fais que lister, Seigneur, si je te suis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu restes là, planté, tu n'avances plus. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, il faut faire quoi? Mais il ne fait que te le dire. Il ne fait que te le dire. Donne-moi ton cœur. Et si tu donnes ton cœur à Dieu, il va permettre que tu prennes plaisir dans les voies de Dieu. Et je vous encourage à lire le psaume 1. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera son fruit en sa saison. On va chanter ces deux chants. Je chanterai à Dieu de tout mon cœur. Et peut-être ce matin, pour certains d'entre vous, c'est un acte de foi. Ça va être un acte de foi de le faire. C'est comme une réponse que vous allez donner à Dieu à ce message. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de mon état d'esprit, de mon cœur qui ne t'appartient pas entièrement. Seigneur, je veux venir devant toi. Et à travers ces chants, je veux te chanter de tout mon cœur. Je veux me consacrer, me reconsacrer peut-être. Parce que je l'ai fait à une certaine date et j'ai lâché parce que j'étais fatigué, parce que toutes sortes d'excuses sont là. Seigneur, je veux revenir à la croix et je veux tout à nouveau suivre tes pas. Toi, tu t'es engagé jusqu'au bout et moi aussi, je veux te ressembler. Que ces chants soient l'occasion pour les uns et pour les autres de faire des actes de foi mais de réfléchir.